Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce midi pour un entretien avec l'écrivain Naïm Katan, animé par la journaliste culturelle et écrivaine Aline Apostolka. Les midis littéraires présentés tous les deuxièmes jeudis du mois sont à nos yeux une façon tout à fait unique de mieux vous faire connaître les auteurs marquants de la littérature francophone d'ici et d'ailleurs. Ces conversations en profondeur avec un auteur nous permettent de mieux comprendre son travail, ses sources d'inspiration, ses rituels d'écriture, ainsi que les aspects de sa vie qui ont fait naître ce désir de création. Je vous précise que la rencontre d'aujourd'hui sera suivie d'une période de questions et que vous pourrez réentendre l'enregistrement de cet entretien sur notre portail Internet. Je vous annonce également que Marie-Cécile Brèche, qui devait être avec nous en novembre, ne pourra malheureusement pas être des nôtres. Alors, je vous invite à consulter notre site Internet pour connaître le nom du prochain auteur invité. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Apostolka, qui vous présentera le deuxième auteur à se prêter au jeu, le romancier, essayiste, critique et journaliste Naïm Katan. Je vous souhaite une très belle rencontre et en terminant, je vous rappelle d'éteindre vos cellulaires. Merci, au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces rendez-vous qui deviennent réguliers et toujours fort agréables. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous un moment particulier avec un grand écrivain, essayiste, nouvelliste, romancier, comme l'a dit Christine Bouchard, auteur de près de 40 livres. Reconnu comme tel dans toute la francophonie, il a aussi, comme souvent les grands écrivains, beaucoup œuvré pour l'écriture des autres. Tous les matins, il nage, puis s'assoit à sa table et écrit. Ainsi, 50 ans durant, de livre en livre, il a construit son chemin singulier, fait de rencontres au carrefour de cultures, de langues, de religions diverses, qui toutes, comme il aime à le dire, ne s'annulent pas les unes les autres, mais au contraire s'ajoutent les unes aux autres. Dans ses livres, les hommes et les femmes, mais aussi les civilisations, se rencontrent, et il a la vastitude nécessaire pour les contenir toutes. Dans cette multitude, depuis 1954, il a choisi Montréal comme port d'attache. « Je suis née à Bagdad », écrit-il. « C'est réel. C'est mon enfance, ma famille, mes racines. Je suis née à nouveau à Paris, où j'ai découvert en vrai, et pas seulement dans les livres, la culture et la civilisation de l'Occident. Ma troisième naissance, la plus fondamentale, s'est faite à Montréal, une ville qui contient toutes les autres, et où toutes les ethnies, les langues, les religions survivent, mais où il doit y avoir une langue commune pour que les habitants puissent s'entendre et se parler. » Le français. Pour sa contribution unique, l'Académie française, qui veille depuis 1635 à préserver l'orthodoxie de la langue française, vient de lui décerner le prix Hervé Deluin, attribué pour la première fois pour la sauvegarde du français comme langue internationale. Cette distinction exceptionnelle est cependant loin d'être la seule. Membre de la Société royale du Canada, officier de l'Ordre du Canada, membre de l'Académie des lettres du Québec, chevalier de l'Ordre national du Québec, chevalier de la Légion d'honneur de France, prix Athanase David 2004 et officier de l'Ordre des arts et des lettres de France. Et avec tout ça, un père et un grand-père attentif. Je vous remercie d'accueillir, comme il le mérite, Monsieur Naïm Katan. Alors, je n'avais qu'une crainte, c'est de ne pas avoir assez de temps pour parler de tout ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Mais on va essayer tout de même.
On reprendra ça plus tard après.
C'est ça, on pourrait faire ça par épisode. Comme vous le savez peut-être, cet entretien est un peu particulier car on essaye de cheminer à travers l'œuvre d'un écrivain tout en voyant comment sa vie réelle a fait de lui, en fait, la personne que l'on connaît aujourd'hui. Et bien sûr, dans votre cas, c'est un parcours immense et tout à fait particulier. Mais la première question rituelle, ici, c'est toujours la même. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Mon nom est Naïm Khatan. Je l'ai gardé, même si on m'avait proposé de le changer. Je garde mon nom. Je suis né à Bagdad le 26 août 1928.
C'est ça, mais dès qu'on prononce le mot Bagdad, beaucoup de choses déjà aujourd'hui, malheureusement, se réveillent. On va parler de tout ça, mais je voulais d'abord parler du petit Naïm. Dans ce Bagdad des années fin des années 20 et du début des années 30, qui étaient vos parents ?
Mon père était un employé du bureau de poste et il n'était pas très riche. Ma mère était à la maison. Mon père essayait de nous faire vivre. On était cinq dans la famille, deux sœurs et deux frères avec moi. Mais on avait des difficultés parce qu'il fallait aussi, on appartenait à une famille qui, dans le temps, avait été plus fortuné. Mon grand-père était un homme fortuné, mais ça s'est dégradé après et il fallait garder la face. Alors, on était très bien habillés, même si c'était ma mère qui faisait la couture. On avait une bonne présence, mais j'ai dû commencer à travailler pour payer mes études à 13 ans.
Ah oui, d'accord.
Et j'ai en même temps commencé à écrire à 13 ans.
C'est ça, mais dans votre petite enfance déjà, si on reste encore dans les années 30, c'est particulier parce que vous appartenez à une famille juive dans un monde arabe. Et à quel âge avez-vous commencé justement à aller à l'école ? Et est-ce que c'était une école juive ou une école arabe ?
Oui, alors voilà, j'ai commencé à aller à l'école à, je crois, à 4 ou 5 ans, ou 5 ans, enfin, comme tous les enfants. Et j'ai eu la chance d'aller à l'école de l'Alliance israélite universelle. La communauté française au XIXe siècle a construit, a établi et fondé des écoles un peu partout au Moyen-Orient et dans les Balkans pour aider les pays sous-développés, mais aussi pour répandre la culture française. Et j'ai eu la chance d'avoir eu cette occasion d'aller à cette école. On apprenait quatre langues. La langue principale, c'était l'arabe.
Oui.
Il y avait le français, l'anglais et l'hébreu. Alors,
voilà un passeport pour le monde.
Oui, je les ai gardés, je veux dire, toutes ces connaissances-là, mais c'était les débuts seulement. Et cette école-là a eu une très grande influence sur moi. Parce que j'ai connu des professeurs qui étaient nés ailleurs. Il y en avait mon principal professeur de français était né à Salonique. Et c'était lui qui m'a mis sur la piste de l'écriture. Il ne parlait pas l'arabe, il ne connaissait pas l'arabe. Mais une fois, j'ai fait une dissertation en français. Et il s'est moqué de moi, il m'a dit que c'était très mauvais. Je dis, mais pourquoi ? Il dit, je suis écrivain, j'avais 12 ans à peu près, je dis, je suis écrivain. Il m'a dit, mais pourquoi c'est pas beau ? Non, pourquoi c'est pas bien ? Il dit, c'est pas beau, et puis c'est pas le sujet d'abord. Et puis je dis, mais moi j'écris des nouvelles. Alors un jour, il m'a dit, traduis-moi une de tes nouvelles, et puis je vais te dire ce que c'est. Alors après, il m'a donné des pistes de l'écriture qui n'étaient pas simplement se laisser aller. À son imagination, mais aussi d'essayer de construire cette imagination. Oui. Et je lui dois beaucoup. Je suis allé, quand j'ai visité la Grèce, je suis allé à Salonique pour saluer mon professeur de là-bas, Capon, il s'appelait. Alors, et après, il y avait une bibliothèque à l'Alliance qui était très fournie, pas seulement, enfin, il y avait des bibliothèques arabes où je lisais, beaucoup, enfin, c'était ma langue. J'étais très, très influencé par Gibran Khalil Gibran, enfin, aussi par d'autres écrivains arabes, Tawfiq al-Hakim, Tahar Hussein, que j'ai eu l'occasion de connaître après, personnellement. Mais Gibran, pour moi, c'était le grand écrivain. Il est connu en Occident par le livre Le Prophète, mais il avait beaucoup d'autres livres en arabe qui étaient très, très importants. Et après, j'ai commencé à lire en français. Et mon professeur, un autre professeur s'appelle Sabag, qui m'a dit, quelqu'un comme toi, parce qu'il voyait mes dissertations et mon intérêt, il dit, tu vas prendre tous les livres que tu veux. Alors, il y avait Malraux, Gide, Romain Rolland, et j'ai découvert Le Monde.
C'est ça, mais est-ce que déjà dans votre petite enfance, comment ça se passait entre la maison et le monde à l'extérieur? Parce que vous étiez dans un foyer juif, et le monde à l'extérieur était un monde arabe et musulman. Comment, tout de suite, je veux dire, dès votre naissance, vous avez vécu dans cette dualité? Comment l'avez-vous intégré?
C'était pas vraiment une dualité, parce que la communauté juive de Bagdad composait à peu près entre le quart et le tiers de la population de la ville. Ce n'était pas une petite minorité.
Bah, ils étaient là depuis 25 000 ans.
Ils étaient là, oui, c'est ça. Ils étaient là depuis... mon histoire commence dans la Bible par les prisonniers de Nabucodonosor à Babylone. Et je descends après 25 ou 26 siècles de ceux qui ont écrit le Talmud, qui étaient les premiers. Ça m'a beaucoup influencé, ça, après, quand j'ai visité Babylone. Et alors, la communauté juive, donc, avait ses écoles, des hôpitaux, un hôpital, des dispensaires, était très avancé parce qu'il y avait beaucoup de juifs irakiens qui se répandaient, surtout en Asie. Par exemple, l'un des premiers ministres de Singapour était juif irakien d'origine. Mmh. Et quand je suis allé à Shanghai, les deux grands hôtels de Shanghai étaient construits par des juifs de Bagdad d'origine, au 19e siècle, au 20e siècle. Alors, il y avait beaucoup. Alors, tous ces juifs-là, quand ils se souvenaient de leur communauté, ils revenaient, ils construisaient des hôtels, etc. Pas des hôtels, je veux dire, des hôpitaux, des dispensaires et des écoles. Et donc, on était. Alors, mais il y avait en même temps une grande communauté chrétienne, parce que c'était parmi les premiers chrétiens du monde.
Oui.
Et eux, ils priaient et parlaient l'araméen. Ils ont continué.
C'est vraiment les origines de l'origine. Là.
L'origine de l'origine. Nous, on était très vieux et eux étaient très vieux aussi.
Oui.
Et après, il y a des musulmans qui sont arrivés après.
Ça, c'est les jeunes, ceux-là.
Oui, qui sont venus après nous. Et eux, évidemment, c'était la capitale de l'empire abbasside. Alors, quand on disait Bagdad, c'est de là que sont partis les conquêtes d'Espagne, de beaucoup de parties du monde. Et pour nous, c'était une grande capitale. Et il y avait une très grande tradition de grands poètes, de grands écrivains.
Mais, mais justement, on va parler de cette civilisation et de cette culture. On ne peut pas ne pas revenir là-dessus. Simplement, vos parents, est-ce qu'ils avaient... Quel rapport avait-il avec le petit Naïm et je dirais, sa vocation littéraire? Est-ce que tout de suite, ils ont été eux aussi pris là-dedans ou pas du tout?
Non. Ma mère était pas tout à fait illettrée, mais elle savait que j'étais très fort à l'école. J'étais toujours premier de classe. Et quand une fois j'étais deuxième de classe, elle m'a dit, mais quel imbécile peut être mieux que toi? Alors bon, mais quand tous les autres mères étaient c'est les examens, elle dit Naïm, il n'a pas de problème. Et ça m'a créé de l'inquiétude, parce que si jamais ça n'allait pas, qu'est-ce que dirait ma mère? Bon, et mon père était plutôt indifférent. Il était absent et de l'étude, mais il était très proche d'une manière affective. Il me bénissait, me protégeait, etc. Mais il ne s'occupait pas beaucoup des études. Mais j'avais un grand frère qui avait 11 ans de plus que moi, qui lui m'a beaucoup mis sur la piste de la littérature. Il a eu une grande influence avec moi, sur moi. Et c'est lui, par exemple, qui m'emmenait quand j'avais 8-9 ans, le matin, il me réveillait à 4 heures du matin pour aller nager, traverser le Tigre à la nage,
oui.
Avant le lever du soleil.
Il vous a mis dans le bain tout de suite.
Oui, alors là, j'ai gardé ce besoin de nager toute ma vie. Et ça a commencé, donc, mon frère qui était très content de me réveiller vers 4h30 du matin pour m'emmener au tigre.
C'est pas n'importe quoi, le tigre. Hein. Il faut quand même le traverser.
Oui, oui.
Alors, c'est pas le Saint-Laurent.
Non, c'est quand même pas. Alors, on me disait que... On m'a dit que si je rentrais à Bagdad, qu'est-ce que je ferais, la première chose que je ferais. J'ai dit... je traverserai le Tigre à la nage. Mais on m'a dit, mais c'est tellement pollué. Mais je dis, c'était tellement pollué aussi à l'époque, terriblement pollué. On voyait des cadavres d'animaux qui flottaient. Mais on prenait des piqûres contre la tuberculose, la bilharziose, beaucoup d'autres maladies pour pouvoir nager.
Dites-moi, dans quelle langue vous avez appris à lire dans tout ça ?
J'ai commencé l'arabe. L'arabe, c'est ma langue. J'ai appris à lire l'arabe, à écrire l'arabe. J'étais écrivain de langue arabe et j'étais très fier. Et quand, à l'école, mon professeur de langue arabe, s'appelle Abd al-Ahad, je me souviens encore, et quand il examinait les étudiants, étaient chrétiens, il examinait les élèves sur la langue, j'étais le meilleur en grammaire arabe. Et la grammaire arabe était parmi les plus compliquées. J'étais très bon à l'époque. Mais par contre, je ne parle pas ni de physique, ni de chimie, de mathématiques. J'étais à peine au-dessus de la moyenne.
Et que disait votre mère ?
Ma mère, elle disait, comme je traversais les examens, j'avais la satisfaction de certains de mes professeurs, pour elle, c'était fait, c'était bien. Oui. Alors, mais quand j'ai commencé à écrire, je me souviens, la première fois que je suis allé voir un directeur d'une revue littéraire, j'avais 13-14 ans, j'avais encore les culottes courtes, il pensait que je venais de la part de mon frère. Je dis non, c'est moi l'écrivain. Et lui, c'était un très grand écrivain qui est resté ami après, s'appelle Dounoun Ayoub. Qui est devenu après ministre de la Culture, etc. Mais enfin, j'ai publié mes premières nouvelles dans sa revue. Quand après le soir, j'allais au café, parce que là, à la maison, on était trop serré, on n'avait pas de place, j'allais au café voir mes amis. Et quand je rentrais tard, mon père et ma mère étaient sur le toit à m'attendre. Ils étaient très inquiets. J'avais 14-15 ans.
Mais oui. Et en plus, c'était... Parce que là, on est rendu dans les années 40 déjà, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, je voulais parler de ça parce que la situation de l'Irak est très particulière par rapport à ça. En ce moment, on fête les 70 ans de l'État irakien en tant que tel.
Oui,
alors,
oui.
Ça veut dire que vous, quand vous êtes né... vous êtes né dans un Irak qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui.
Non, il y avait un roi, un petit roi, le roi Faisal, et tous les vendredis matins, on nous réunissait dans la cour de l'école pour fêter le drapeau irakien et dire des poèmes en l'honneur du roi et du pays, enfin devant tous les élèves de toutes les classes réunies. Et j'étais l'un de ceux qui ont fait ça aussi. Mais après ce roi-là, enfin, il y a eu beaucoup de coups d'État, etc. Mmh. Le roi a été assassiné, et, son père était mort par accident. Enfin, mais surtout, le grand drame pour l'Irak et pour les Juifs surtout, en 1941, il y avait un gouvernement pro-nazi de Rachid Ali Gaylani. Et comme l'Angleterre avait la main mise sur l'Irak, mais on ne les voyait pas, les Anglais. Il avait deux bases militaires, mais où on ne pouvait pas aller. Mais il n'était pas comme dans les colonies françaises, on les voyait partout, on ne les voyait pas. Mais il y avait un gouvernement, un parlement, etc., et des hauts fonctionnaires. Mais Rachid Al-Ghani a déclaré la guerre contre l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et la guerre, c'était la seule victoire que l'Angleterre a eue, la Grande-Bretagne a eue cette année-là, parce que Hitler avançait, a eue pendant cette année-là, parce que Hitler était très, très, très puissant en 1941. Alors, Rachid Al-Ghani attendait, et puis son gouvernement attendait l'arrivée des Allemands pour le secourir. Mais, je dis, heureusement pour nous, les Allemands avaient d'autres projets, c'est-à-dire d'aller en Union soviétique. C'était l'année où, quelques semaines après, ils sont allés envahir la Russie. Alors, ils n'avaient pas le temps de venir en Irak. Et il a envoyé 3 ou 4 aviateurs qui, quand ils se promenaient à Bagdad, dans la rue, les gens leur embrassaient la main comme si c'était des grands imams ou des envoyés d'une divinité quelconque. Mais enfin, mais la guerre, et après cette guerre-là, la ville était laissée sans loi ni d'égalité, et il y a eu ce qu'on appelle le Farhoud, un pogrom, où les Juifs étaient massacrés. C'était pas le nom, parce que c'était à l'époque de la Shoah ou des camps de concentration, c'était par rapport à ça relativement pas énorme, mais quand même pour nous, après 25 siècles de vie là-bas, de se sentir. Moi, j'avais 12 ans et j'étais sur le toit, parce qu'on était en été, et on dormait toujours sur le toit à l'été, et on entendait des coups de fusil qui s'approchaient. Alors, j'ai dit, je n'ai pas encore vécu et on va me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça m'a traumatisé. J'ai écrit beaucoup là-dessus. Ça m'a beaucoup traumatisé. Mais ça a duré 2 jours. Et après, bon...
Mais à un tel point qu'en 1951, les Juifs qui vivaient là depuis 25 000 ans ont été chassés d'Irak.
Oui. Alors, ils sont partis en grande partie en Israël et dans d'autres pays. Alors là, quand... par exemple, quand mon livre « Adieu Babylone » vient de sortir en Grande-Bretagne, après, il était sorti à Montréal il y a plus de 30 ans.
On va venir au livre.
Oui. Alors, j'ai rencontré beaucoup de juifs et de musulmans irakiens parce que quand j'étais là, j'étais très intéressé par, après 1941. Il y avait tout un groupe d'écrivains, d'artistes et j'étais... l'un des juifs qui était au cœur de groupes musulmans, de grands amis, on a fondé des revues. L'un des revues s'appelait les temps modernes.
Où vous écriviez sur les écrivains français.
Français, beaucoup. Sur Valéry, Malraux, Gide, etc. Et il y avait une autre revue, on a seulement 3 numéros, s'appelait Le temps perdu.
Oui.
Parce qu'on pensait qu'on perdait notre temps à être écrivain, mais ce n'était pas vrai non plus, parce qu'on discutait beaucoup de littérature. On avait beaucoup de volonté de créer une culture irakienne, une culture arabe, une littérature arabe. Et pour la première fois, une revue égyptienne, pour nous, l'Égypte, le Caire, c'était comme Paris pour
les...
C'était le phare. Oui. Il y avait une revue égyptienne qui a dit « Voilà l'une des promesses de la jeune littérature irakienne. » Ah, j'étais au nu.
Alors, mais néanmoins, bien sûr, chez vous, vous parliez hébreu, je suppose.
Non, on parlait arabe.
Tout le monde parlait arabe.
Tout le monde parlait arabe.
Vous parliez l'hébreu à
l'école. L'hébreu, c'est seulement la prière à la synagogue. L'hébreu, on ne parlait pas.
Ça veut dire que quand même, dans votre enfance, déjà, vous avez donc appris le Coran, lu le Coran, et aussi, je suppose, l'Ancien Testament,
oui,
le Talmud,
la Bible,
la Torah,
oui, tout. Oui. Oui.
La Bible,
enfin la Torah, oui, on apprenait ça à l'école, oui, et on apprenait l'arabe. Et après, je suis allé à l'école secondaire, dans une école musulmane, parce que je voulais faire les lettres, et il n'y avait qu'une école musulmane pour ça, et j'ai appris beaucoup le Coran. Je connais le Coran.
Que vous enseignerez jusqu'à Montréal. Alors, ouais. 47, grande année, vous avez 18 ans. Et vous recevez la première bourse du gouvernement français après la guerre pour aller faire des études de lettres à la Sorbonne. Et là, vous vous apercevez, bon, bien sûr, d'abord, c'est une ouverture, mais vous, le spécialiste des lettres françaises, vous allez devenir spécialiste du Moyen-Orient à Paris.
Oui, alors, d'abord je vais prendre 2 minutes pour dire comment j'ai obtenu cette bourse-là.
Ben oui.
Et pendant la guerre, il y avait M. Jean Golmier, qui a une influence considérable sur ma vie, qui était l'un des examinateurs de brevets élémentaires, il est venu de Beyrouth. On passait l'examen comme des Français. Et j'étais le premier. Alors, et comme dans ma dissertation, j'ai montré des poèmes d'Aragon, plutôt que des fables de La Fontaine. Alors, elle me dit, est-ce que vous connaissez ? Elle dit, ah bah oui, je le connais. Je dis, comment, vous connaissez personne ? C'était le premier Français que je rencontrais de ma vie. Alors, après, elle m'a dit, non, maintenant c'est l'oral, venez après à mon hôtel, on va parler. Alors, je suis allé voir à l'hôtel, je dis, je veux aller faire des études avec vous à Beyrouth. Il dit, non, pas Beyrouth, vous irez à Paris. Je dis, comment ? Paris est occupé, je suis juif et je n'ai pas d'argent. Il dit, Paris sera libéré, il travaillait pour De Gaulle, et vous aurez la première bourse. Et j'ai eu la première bourse du gouvernement français après la guerre, en 1947. Et là, quand je suis arrivé à Paris, évidemment, c'était l'éblouissement le plus total. La première fois, j'ai pu parler en tête-à-tête avec une jeune fille. Et ça, c'était une découverte inouïe pour quelqu'un de 18 ans, complètement privé de ça. Et après, il y avait les théâtres, la musique et les écrivains. Alors, comme j'ai écrit sur le surréalisme, j'ai été accueilli par André Breton. Alors, il me présentait, alors ça faisait très exotique. Voilà, c'était aux deux magots, voilà le chef de notre groupe surréaliste de Bagdad.
C'était alors, surréaliste.
C'était très surréaliste. Alors, après, il y avait un des gens qui était là, Yves Bonnefoy, qui est resté jusqu'à aujourd'hui un de mes grands amis, il m'a dit, mais vous êtes combien dans ce groupe de surréalistes ? Je lui ai dit, vous avez tout le groupe devant vous. Bon, mais j'ai assisté à ce groupe-là, j'ai connu beaucoup de monde. Beaucoup. Alors, et après, Yves Bonnefoy m'a dit, écoute, si tu veux écrire en français, je commençais déjà en 1948, si tu veux écrire en français, il y a Maurice Nadeau, qui est le chef de combat, le chef de littérature, va lui présenter tes articles et il t'accueillera très bien. Moi, je ne veux pas écrire dans les journaux, il n'a jamais écrit un article dans un journal. Et bonne fois, mais enfin, ça, c'était son choix. Ben, alors, vas-y. Alors, je suis allé voir
Maurice Nadeau,
qui était très impressionnant. Alors, il dit, vous pouvez écrire sur quoi ? Je lui dis, j'ai écrit sur Gide. Ah bon, oui, sur Malraux, sur Kafka, non. Alors, il dit, mais vous ne connaissez pas d'écrivain arabe ? Je dis, oui, bien sûr, je connais Tawfiq al-Hakim, dont on vient de publier des extraits de son roman dans les temps modernes. Ah, il dit, faites-moi un article là-dessus.
Et Taha Hussein.
Et après Taha Hussein, et puis j'ai écrit sur les écrivains arabes. Alors, et moi, qui pensais qui était celui qui défrichait la culture occidentale pour l'Irak. J'arrive en Occident, il fallait parler de la culture arabe. Et c'était merveilleux pour moi.
Mais vous étiez déjà un passeur.
Oui, enfin, par la force des choses. Oui. On me demandait de le faire. On me demandait d'écrire sur ces écrivains-là. Et ce qui m'a créé beaucoup d'amitié, parce que Tawfiq al-Hakim, qui était le grand écrivain égyptien à l'époque, quand il a vu sa photo dans Combat en 1948, c'était quelque chose quand même. Sa photo et un article sur lui, il m'a envoyé tous ses livres à mon collègue, à mon ami écrivain, etc. Et après, quand Taha Hussein, le grand écrivain égyptien, était venu à Paris, je suis allé le voir à l'hôtel Lutetia, il était aveugle. Et c'était très impressionnant pour moi. Et quand mon premier livre est sorti à Du Babylone, Michel Tournier a écrit la préface. Et il dit qu'il me fait ressembler à Taha Hussein, qui pour moi était un grand, très très grand compliment.
Mais je disais que vous étiez un passeur parce que en réalité, on comprend que dès l'origine, vous êtes dans le passage entre les civilisations, les cultures, les langues, les religions, et là, vous avez passé les écrivains français vers l'Irak dans votre jeunesse, puis les écrivains arabes vers la France, et bien sûr, on va arriver à Montréal dans quelques temps. On n'est pas encore rendu, mais on va y arriver. Et donc, vous êtes Abraham en fait, le passeur.
Oui, enfin, ça, c'est une tradition énorme pour moi. J'ai écrit sur Abraham. J'ai écrit des textes sur Abraham plus tard.
Oui,
et pour moi,
c'est un
des grands de l'humanité entière.
Bien sûr, mais c'est le père de tout le monde en plus.
Et il était passeur.
Et il était passeur.
On dit, pour la première fois, on dit Abraham ha-Ivri. Et Ivri, qui veut dire hébreu veut dire, et en hébreu ça veut dire passeur. Ivri veut dire passeur.
Mais là, on est dans les années 50 à Paris, ce sont des années formidables pour
Fantastique.
La France.
Fantastique. Oui. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai fait la connaissance de beaucoup, à part les surréalistes et beaucoup d'autres écrivains, mais aussi je faisais mes études à la Sorbonne.
Oui, à la Sorbonne, bien
oui,
sûr.
Oui, il fallait faire mes études. J'avais une bourse qui a été renouvelée deux fois, c'était pas mal. Et après, comme je ne pouvais plus rentrer en Irak parce que les Juifs étaient harcelés et puis chassés, on leur montrait là.
Oui, en 51, ils ont été chassés. Donc, oui. Alors, on vous a retiré votre passeport. À ce
oui, on m'a retiré mon passeport. Alors, je suis devenu réfugié en France et j'ai dû chercher du travail. Heureusement qu'il y avait quelqu'un, un Irakien juif, qui était un homme d'affaires, qui était à Paris. Et il fallait déclarer pour pouvoir travailler en France à l'époque qu'aucun Français ne peut faire le travail de quelqu'un qui est étranger. Alors lui, il a dit, j'ai besoin de quelqu'un, c'était absolument fou, qui connaisse l'hébreu et l'arabe. Alors il n'y avait pas beaucoup de Français qui connaissent en même temps l'hébreu et l'arabe. Alors, mais il me payait pas selon ce que je faisais comme travail, mais je voyais que ce n'était pas...
C'est devenu difficile, c'est une situation qui est devenue difficile.
Très difficile.
Oui, et en tout cas que ça ne vous permettait pas de vous déployer, j'imagine.
J'essayais d'écrire, par exemple, quand je voyais qu'on persécutait les Juifs en Irak, je prenais leur défense. Alors je allais dans tous les journaux, Le Figaro, Le Monde, je dis, vous savez, on persécute les Juifs en Irak, il faut écrire là-dessus. Personne, on dit, on vous appellera.
Oui, mais pourtant la communauté juive en France était déjà...
Même la communauté juive, c'était les Juifs d'Irak, c'était loin, c'était pas connu, etc. Même la communauté juive, s'il y avait un journal juif qui a fait un grand article là-dessus. J'ai eu un autre journal à Londres, juif aussi, qui a fait un article. Mais alors, comme y compris mon frère était mis en prison à l'époque, alors je me sentais libre, mais il fallait que je fasse quelque chose.
Oui.
Alors bon, et il y avait que la communauté, enfin l'American Jewish Community, la communauté américaine, juive américaine, qui est installé à Paris, qui avait un bureau à Paris, eux, ils étaient très intéressés. Ils m'ont fait faire des rapports, ils ont fait des choses là-dessus, etc. Et j'ai écrit dans la revue qu'ils publiaient là-bas à l'époque, qui est une grande revue culturelle française, qui s'appelle Évidence. J'ai écrit là-dessus.
Mais est-ce que, justement, tout ce que vous allez produire, une grande œuvre, vous allez attendre à peu près une vingtaine d'années avant de recommencer à écrire en français, mais pendant toute cette période-là, vous construisez votre œuvre, je dirais, intérieurement. Et est-ce que ce désir de sauver la mémoire et de passer, encore une fois, de transmettre la mémoire, n'est pas né aussi de tout ça?
À l'époque, j'étais trop jeune pour penser encore à ça. Alors, mais un jour, quand j'étais à Paris, il y avait dans les temps modernes, en tranche, on a publié le roman d'Albert Memmi, la statue du sel, qui était pour moi, enfin, où il racontait l'histoire de la communauté juive de Tunis. C'est la première fois qu'on parlait des communautés juives comme ça. Il y avait Albert Cohen, mais lui, c'était pas, il était en Europe, il était européen. Mais Albert Memmi était le premier juif du monde arabe qui a écrit sur les juifs du monde arabe. Et quand j'ai lu son roman, j'ai dit, il faudra que quelqu'un écrive ça un jour sur les Juifs de Bagdad. Et un jour, après, quelques années après, au centre Pompidou, on nous a réunis. Et quand j'ai dit ça, il est devenu un de mes grands amis jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, c'est vrai, tu as pensé à ça. J'ai dit, oui, tu m'as influencé.
Tout à fait, clairement.
Tu as donné l'exemple. Et bon.
Alors là, il y a l'autre grand choc qui arrive. Il y a beaucoup d'épisodes à raconter, pas le temps.
J'ai écrit beaucoup de livres où je raconte beaucoup de choses.
Beaucoup d'épisodes, voilà. 54, vous allez à Montréal. Mais comment ça s'est passé, ça? Est-ce que ça s'est passé à cause des papiers?
Non, je vais raconter en deux mots, parce qu'on me demande comment vous avez choisi Montréal et pourquoi. Alors, en 52, un ami hollandais, parce que j'écrivais aussi en Hollande.
Oui,
j'écrivais
donc
beaucoup. J'essaie de faire beaucoup de choses en Europe. Je ne vais pas tout raconter là. Mais alors, un ami hollandais m'a dit, il y a un bateau hollandais qui fait des voyages plus longs que les autres et qui donne des... pour ceux qui font des conférences, et, il y a un voyage gratuit à New York. Alors, j'ai dit, moi, je fais toutes les conférences que tu veux, surtout que j'avais un oncle à New York. Alors, je suis allé, je suis trouvé mon oncle et mon cousin et mes cousines, et j'étais très impressionné par la liberté qu'il y avait à New York. Quand j'allais à l'hôtel, je dis, vous voulez mon passeport? On me disait, mais pourquoi votre passeport? Mais on n'a pas besoin. Enfin, si vous allez payer, c'est tout ce qu'on veut savoir.
C'est ça.
Bon. Alors, j'ai trouvé, et on m'offrait déjà du travail. On ne me demandait pas d'où je venais, etc. Bon, j'ai dit, mais moi, je vivote à Paris, il faut que je vienne en Amérique. Mais comme j'ai fait mes études de français, à la Sorbonne, et puis j'ai choisi le français à Bagdad même. Parce qu'il faut dire qu'à Bagdad, le choix était émotif. Je n'ai pas choisi l'anglais parce que c'était la langue des colonisateurs. J'ai choisi la langue de la liberté pour moi. C'était la langue de la liberté. Quand j'ai dit ça une fois à une table ronde avec Tahar Ben Jaloun, je lui ai dit, pour moi, c'était la langue de la liberté. Elle a dit, oui, ça. Elle dit, tu n'as pas vécu au Maroc.
Ah ben, c'est ça, c'est exactement ça. On est la liberté de différentes personnes.
Alors, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Ma femme, parfois, me dit que je suis un peu romantique. Enfin, bon, mais pour moi, c'est la langue qui m'a appris la liberté.
Mais il y a une part d'universalisme qui se perd beaucoup.
Enfin, mais
existait tout de même dans la culture française.
Et comment? Et pour moi, c'est la langue, c'est ma langue.
Oui.
Et je l'ai choisie émotivement et oui, bon.
Mais une langue est d'autant plus la sienne qu'on l'a choisie, encore plus que celle qui
absolument.
Nous est donnée à la naissance.
Absolument, absolument. Et je me bats avec cette langue, mais enfin, ça fait rien. Tous les écrivains se battent avec leur langue, même si, quand ils sont nés là-dedans. Alors, et après, j'arrive. Alors, j'ai dit, il faut que je parte. Alors, quand je suis rentré à Paris, je suis allé à l'ambassade du Canada. Je lui ai dit, je vais aller au Canada. Là, on parle français.
Oui.
Et j'ai mis du temps parce qu'on ne me croyait pas que je voulais simplement aller là parce qu'on parle français. Mais à la fin, il y avait le premier qui m'a reçu, le premier fonctionnaire qui m'a reçu n'était pas très gentil. Mais le deuxième, quand il a changé, je ne l'ai jamais retrouvé. Je l'ai cherché après. Il était de Québec, il s'appelait Dupont. Et quand je lui ai dit, est-ce que il faut que je porte, en allant à Montréal, il faut que je porte des vêtements, des sous-vêtements en laine. Il dit, mais quoi, à votre âge, vous n'allez pas travailler dans la forêt. Même dans la forêt, on ne porte pas ça. Alors après, il m'a serré la main et il dit, je salue un futur compatriote. J'ai dit, voilà quelqu'un.
Vous avez 25 ans, cette époque-là.
J'avais 25 ans. J'arrive ici, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, c'était très difficile. Très difficile.
Il fait froid, malgré ce qu'il vous a dit.
Je suis arrivé le 4 février, et dehors, je suis arrivé, parce que le bateau arrivait à Halifax, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin.
Oui.
Et de Halifax, on vient par train, et par train... il faut que je raconte une anecdote qui m'est arrivée à Halifax. Quand je suis arrivé à Halifax, c'était très impressionnant pour moi et un bon accueil pour moi aussi. Il y avait à l'époque une loi canadienne sur l'immigration. Les Asiatiques avaient droit à 100 immigrants par année. C'était la loi jusqu'à 54. Enfin, après, ça a changé. Alors, quand j'arrive à Halifax, l'officier là, qui me regarde mon passeport, il dit, vous êtes né où? J'étais à Bagdad. Ça se trouve où? En Irak. Et ça se trouve où, ça, en Irak? Il dit, en Asie. Il dit, vous êtes asiatique? J'ai dit, oui, je suis asiatique. Il dit, on vous a donné le visa. Mais le visa était bien là. Il dit, on vous a donné le visa et on va vérifier, etc. J'ai dit, oui, on a bien vérifié que je suis asiatique, on m'a donné le visa. Alors j'ai dit, peut-être celui-là, il veut savoir ma religion. J'ai dit, mais vous savez, je suis juif. Ah, il fallait le dire. Les juifs ne sont pas asiatiques. Dans la classification de l'immigration, Ils ne sont pas asiatiques. Ils sont des... Ah, il dit, quel merveilleux pays qui m'accueille là comme ça. Bon, alors après, mais l'accueil n'a pas duré très longtemps parce que j'allais de l'endroit à l'autre pour chercher du travail et je suis allé voir même le journal Le Devoir à l'époque. Enfin, je suis devenu après,
oui.
J'écris encore depuis 45 ans dans Le Devoir. Oui. Le premier accueil de rédacteur en chef a dit, mais on n'a pas besoin, c'était une période très difficile au Québec.
Oui.
C'était Duplessis et Le Devoir était...
Attends, en pleine noirceur. Là.
Alors, il m'a dit, je vous conseille... Reprenez vos affaires et rentrez, parce que les intellectuels ici, on n'en veut pas. Mais après, quelques mois après, j'ai rencontré André Larondeau, qui lui m'a accueilli dans sa émission à la télévision pour parler de l'Irak, pour parler de Bagdad, comment on a conservé une culture pendant 25 siècles sans avoir un État, et comment on a pu... rester pendant 25 siècles juif, pour lui, c'était un grand mystère. Et on est devenus de très grands amis. On se voyait une fois par mois, moi, le juif de Bagdad, et lui, le nationaliste québécois. Et un jour, je lui ai dit, dans Le Devoir, c'est un merveilleux journal, et puis vous parlez jamais de littérature américaine ou de littérature canadienne-anglaise. Comment ça se fait? Il me regarde, il me dit, ça vous intéresse? Je lui ai dit, vous êtes notre chroniqueur.
Eh bien, voilà.
Alors... Et je dois aussi dire que l'accueil à l'époque, c'était la première émission que j'ai faite à la radio, c'est pour parler de mon passage, etc. Et surtout d'un livre qui venait de sortir, qui s'appelait Aaron, qui était sur un juif de Montréal par Yves Thériault. C'était un grand événement. Et c'était René Lévesque qui m'a interviewé à la radio. Et c'était mon premier intervieweur. Et puis on est restés amis jusqu'à...
C'était un baptême.
Oui, c'était merveilleux, je ne savais pas. On est restés amis. Il m'a beaucoup interviewé après, Point de Mire, etc. Et je me souviens, c'était la première fois que je recevais un chèque de Radio-Canada de 13 dollars.
Oh!
Ça m'a permis quand même de manger pendant 2 semaines.
Ah ben, 13 dollars à l'époque, c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. Racontez-moi comment vous avez participé à la création de la Place des Arts. C'est pas rien, ça, quand même.
Non, c'est pas Place des Arts. C'était justement René Lévesque. C'est pas vraiment, non. La Place des Arts était déjà créée. Et il fallait, par un groupe privé. Et ça ne marchait pas. Alors... Le gouvernement de Québec et le Montréal comme ville ont pris ça en main et il fallait nommer un conseil d'administration pour gérer la Place des Arts. Et le Québec avait droit à 4 et le Montréal avait droit à 4. On était 8. Et René Lévesque, qui me connaissait, il disait il ne fallait pas que ce soit uniquement... des hommes d'affaires, etc. Il fallait qu'il y ait aussi une diversité, qu'il y ait un juif dans l'administration. Et il m'a nommé comme administrateur de la Place des Arts. Et j'ai signé la construction des 2 salles avec les autres membres. Alors, et mon nom, d'ailleurs, figure sur...
Oui, sur la plaque.
Sur la plaque là-bas. Alors, pour moi, c'était quelque chose, un baptême, mais c'était très impressionnant aussi. Et j'ai eu la chance, on n'était pas payé pour ça, mais enfin, c'était merveilleux quand même. Mais j'ai eu la chance que ça survienne à l'époque de l'Expo. Et on avait droit à tout gratuitement, à tous les spectacles de la Place des Arts à l'Expo. Et il y en avait.
Ah ben.
Tous les orchestres du monde, les opéras, les théâtres. Et après, il y avait des rencontres avec les chefs d'État. Je me souviens encore une rencontre avec le Shah d'Iran qui était venu là et j'étais très impressionné par ses chaussures tissées à la main en soie. Enfin, c'était Il était un homme ordinaire, mais enfin bon, mais il était. Mais enfin, il y avait plein de gens comme ça.
Mais de choses extraordinaires, vous-même, d'une personne extraordinaire, vous arrivez en 54, en 67, vous êtes déjà signataire et vous participez à la construction. En 67, on va y revenir, vous allez aussi rentrer comme directeur du service des lettres et de l'édition du Conseil des arts du Canada, c'est immense. Oui. En fait, vous avez été à l'origine beaucoup de ce que sont devenues aujourd'hui nos institutions culturelles ici.
Oui,
y êtes-vous arrivé ?
Oui, il faut dire que c'est peut-être un peu grâce à ma curiosité et à mon intérêt pour les autres. Quand je suis arrivé ici, le seul travail que je trouvais, parce qu'on me faisait belle, quand j'allais chez les Canadiens français, on me disait, oui, vous êtes juif, mais vous appartenez bien à une paroisse. J'ai dit non, je suis pas. Pour eux, à l'époque, il faut se reporter à ça. Je voulais ouvrir un compte chez Desjardins. Et si je ne montre pas que j'appartenais à la paroisse, je ne pouvais pas. Et après, mon fils a eu la revanche. On lui a donné la première bourse Desjardins. Après. Mais tout ça, ça a changé. Il y a une révolution qui a eu lieu entre temps. Mais enfin, bon. Quand je suis arrivé à la communauté juive, je leur regarde, je leur dis, mais vous êtes dans un milieu francophone et vous ne faites rien en français. Alors le directeur du congrès juif à l'époque, il me dit, mais on a un petit groupe qui se réunit de temps en temps, ça s'appelle le Cercle juif, si vous voulez vous intéresser. Je dis, ah oui, je m'intéresse beaucoup. Et j'ai fait la première publication de langue française, de bulletin du cercle juif que j'ai fait en français. Mm. C'était la première publication non catholique en français au Québec. Alors à l'époque, tous les journaux écrivaient des éditoriaux. Pourquoi les juifs font un journal en français? Quel est leur but? Alors comme c'était en même temps un rapport, j'écrivais sur la littérature qui sortait ici, les poèmes, les poètes et les romanciers, en même temps que c'est les choses juives aussi, et c'était un rapport. Alors il y avait beaucoup, et j'invitais des Canadiens français à venir parler à la communauté juive, et tous ont passé de Trudeau, René Lévesque, Pelletier, Jacques Parizeau, enfin beaucoup tous. Alors, et après, comme j'étais intéressé par la culture du Québec, c'était ma culture, j'ai décidé que ça va être ma culture, alors là, ils m'ont adopté. Et comme c'était l'ouverture, et parmi beaucoup de prêtres de l'ouverture, sont devenus aussi mes amis. L'abbé O'Neill, qui à l'époque était l'abbé, maintenant il est marié, etc., il est professeur, il m'a invité à sa cellule pour trinquer, il dit, ça ne te fait rien, avec du vin de messe. J'ai dit non, ça ne me fait rien.
Alors vous étiez béni, là.
Non, mais enfin, j'ai connu beaucoup d'autres prêtres. Oui. Le père Lévesque, par exemple, un grand bonhomme, il m'invite en 55 à la maison Montmorency à Québec. Et il m'a dit, vous allez passer le week-end à notre monastère, parler des Juifs. Il fallait le faire à l'époque. J'ai eu l'occasion et la chance de connaître des gens d'ouverture au Québec et ailleurs aussi. Mais enfin, bon. Et c'était pareil aussi ailleurs. Et donc, quand il y a une revue, comme je m'intéressais à la littérature canadienne anglaise, j'étais l'un des premiers à écrire des articles là-dessus.
Oui, à écrire dans le Devoir.
Alors, les Canadiens anglais étaient très impressionnés. Ils m'ont nommé comme membre du comité de rédaction de la grande revue littéraire de Toronto, Tamarack Review. Alors, le Conseil des arts, quand ils cherchaient quelqu'un qui connaisse et le Canadien anglais et le Canadien français en littérature, c'était Jean Boucher. Il m'a dit, c'est toi qu'on veut.
Ils cherchaient encore un Abraham.
Enfin, alors... Non, j'étais tout jeune. Et, enfin, non,
oui,
j'étais un peu moins jeune.
Un peu moins jeune, là. Ouais. Commence à rentrer dans la trentaine.
Et je ne voulais pas aller travailler à Ottawa, sauf à un certain moment, j'ai appris que j'allais être père, que mon fils allait naître. Alors là, j'ai dit, là, c'est fini de batifoler. Là, il faut avoir une base, un bon salaire. Et puis j'ai gardé ma maison à Montréal Et j'ai passé le week-end à Montréal et la semaine à Ottawa pendant 25 ans. Je pensais que ça allait durer 2 ou 3 ans, ça a duré 25 ans.
Mais alors justement, là, on est en 67, vous devenez père, vous êtes marié, vous êtes installé, vous êtes déjà à la fois à Radio-Canada, à la fois dans Le Devoir, vous dirigez le bulletin du Cercle juif, vous êtes bien connu comme intellectuel ici. Une révolution s'est passée, vous avez dit, et là, vous prenez la direction du livre et de l'édition du Conseil des arts à Ottawa, du Canada à Ottawa. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment une mission fondatrice, parce que là, vous avez pu faire des choses immenses.
Tout était nouveau. J'étais le premier officier de lettres et de l'édition, et j'avais un budget de 250 000 dollars par année. Quand je suis ressorti après 25 ans, le budget était de 22 millions. Alors, il y avait une progression. Mais j'ai créé programme après programme. Quand je suis rentré, on aidait les éditeurs de publier des romans, mais on le faisait lire les romans en manuscrit au Conseil des arts. Après, j'ai créé le service de l'édition où on donnait à l'éditeur, on leur faisait confiance. Il faut dire qu'il y avait de plus en plus d'éditeurs aussi, de plus en plus d'écrivains. On ne les inventait pas. C'était le pays qui les inventait, qui créait. Les créateurs étaient là. Il fallait simplement les soutenir. À l'époque, je ne voulais même pas qu'on dise que le Conseil des arts soutenait, parce que je dis c'est notre travail, c'est le choix de la communauté générale de pays qui veulent qu'on aide la culture qui était en train de se développer, de s'épanouir. C'est pas, nous ne sommes pas des gens qui font de bénévolat, etc. Nous sommes là pour exécuter la volonté d'une communauté humaine, d'une société qui veut avoir sa culture. Et je voyais, par exemple, quand il fallait faire des traductions de l'anglais en français, j'ai créé le programme.
Traduction. Pour les traductions, oui.
Quand je voyais qu'il y avait des développements de la traduction internationale, je suis allé me renseigner des pays qui faisaient la même chose en Allemagne, en Hollande, et on a créé le programme qui marche très très bien maintenant, oui. Le programme de traduction internationale. Quand il fallait, alors à un certain moment, il fallait créer des prix littéraires. Il y avait j'ai dit, il faut créer des prix où on est à égalité en français, le Québec avec. Pas avec la France, parce que c'était trop. Il fallait qu'un écrivain français qui reçoive le prix soit aussi impressionné qu'un écrivain de Québec. Alors j'ai créé ça avec la Belgique. Et ça a été très important.
Oui.
Les Belges étaient au même niveau que nous à l'époque. Et ça a créé beaucoup de rapports entre la Belgique et le Québec. Et après, j'ai créé pour l'anglais. J'ai essayé avec l'Écosse. Ça n'a pas marché parce que le gouvernement de Londres n'a pas voulu. Mais j'ai créé ça avec l'Australie. Et j'ai créé le prix Canada-Australie. Enfin, j'ai essayé de...
Les bourses de création, ça aujourd'hui, c'était extrêmement important, les bourses de création pour les
écrivains. Alors là ça fonctionnait. Et par exemple, la lecture publique, tout ça, ça ne se faisait pas. Un jour, quelqu'un vient me dire, il y a 3 ou 4 lectures qu'on veut faire des gens de Toronto à Montréal. J'ai dit, on a accepté. Après 3 ou 4 ans, il y avait 1500 qui demandaient ça, du Canada anglais. Mais il fallait le créer aussi en français. Alors, on l'a créé. Alors, j'avais les moyens aussi, on me donnait les moyens. Mais j'avais aussi l'amour de ça et l'énergie pour le faire. Et je me faisais entourer par des adjoints et des collaborateurs qui étaient très, très, très forts.
Alors vous n'êtes pas venu travailler dans le bois, mais néanmoins, vous avez défriché.
Oui, mais non, c'est-à-dire la culture se faisait.
Oui.
Les écrivains naissaient. Il y avait des poètes, il y avait des revues, il y avait partout, au Canada anglais comme au Québec. Il fallait les soutenir. On ne les inventait pas.
C'était des années d'une richesse considérable.
C'est fantastique, fantastique. Évidemment, il y avait des gens qui me voyaient, qui pensaient que j'étais ami avec tel ami. J'avais de grands amis. Entre autres, par exemple, Gaston Miron a écrit un truc sur moi, c'est magnifique comme hommage. On était très amis. Il y avait aussi des problèmes. Par exemple, le prix du gouverneur général, dont j'étais l'administrateur, tous les Québécois le refusaient à l'époque. Alors, moi, je devais faire face à ça, parce que c'est moi qui choisissais les jurys. Et au Parlement, c'est surtout des Canadiens français, enfin des Québécois au Parlement, enfin à Ottawa, qui me disaient, mais comment vous choisissez votre jury? Et comment est-ce que vous ne pouvez pas demander à ceux qui vont recevoir le prix s'ils l'acceptent ou non? J'ai dit non, le prix est pour le meilleur livre de poésie, le meilleur roman et le meilleur essai. On ne peut pas choisir les gens, sauf par mérite. Et les jurys doivent être des gens de mérite aussi. Et alors, je sais que Fernand Dumont a reçu le prix, qui était un grand ami à moi, j'ai enseigné à Laval. Et alors, il me dit, Naïm, ce n'est pas contre toi, tu sais, je vais donner...
C'est politique.
Oui, c'était politique. Et quand Hubert Aquin faisait un discours contre le Conseil des arts, avant de le faire, il vient m'embrasser et dit « Tu es mon frère. Et je vais faire une conférence qui va t'intéresser. » Bon, j'ai su que ça m'intéressait vraiment.
Ah oui. Ouais,
alors, et puis, ils étaient tous pareils. Et Lévi Beaulieu, il dit, il fait un discours où il dit « Je rends hommage à Naïm Kattan, ça n'a rien à voir avec lui. » Même s'il dirige le service. Bon, mais moi, ça me mettait dans une situation assez difficile. Mais enfin, je disais, la liberté va gagner. Et c'est finalement, la liberté a gagné.
L'a gagné, en fait, la culture a gagné au Québec.
La culture.
Au Québec. Oui.
On n'a jamais donné un prix pour des gens qui l'acceptaient seulement. Simplement parce qu'ils l'acceptaient. Oui. Et bon.
Mais je veux dire, la culture en général, Naïm Kattan, parce que vous avez dit...
Il faut rendre hommage au Canada et au Québec, enfin, de cette liberté dont j'ai pu jouir et j'ai usé. C'était une merveille.
Donc vous avez usé, et encore une fois, que vous avez aussi contribué à faire partager à d'autres. Je vous ai souvent entendu parler de la révolution culturelle du Québec et du fait que les Québécois d'aujourd'hui n'en sont pas beaucoup conscients, d'une certaine façon.
C'est-à-dire, je me souviens d'un débat que j'ai eu avec Michel Lalonde, qui commençait, et elle m'a dit un jour... je n'écris plus avant que le Québec ne soit indépendant. Je ne peux pas écrire. J'ai dit, non, écoute, écris pour qu'il le soit, si tu veux. Mais tu ne peux pas dire que tu ne vas pas écrire. Mais enfin, il y avait peut-être d'autres raisons pour lesquelles il n'écrivait pas. Mais en tout cas, mais Gaston Miron n'a jamais cessé d'écrire. Et tous les autres, Jean-Guy Pilon, enfin... Roland Giguère, enfin, c'est tous les écrivains qui écrivaient, Hubert Aquin. Mais il œuvrait pour avoir une culture. Mais la culture était là. On l'enseignait, on la lisait, on la publiait, on l'étudiait. Et ce n'est pas parce que c'est encadré par un État que ça devient plus grande et plus importante. Elle est là.
Mais justement, quand je parlais de la culture, je veux dire aussi le fait que vous avez assisté en direct à un dynamisme, un développement de toutes les formes d'art ici en 40 ans, en 50 ans, de
absolument.
Manière fulgurante.
Absolument. Après, je suis devenu, à la fin de mon séjour au Conseil des arts, je suis devenu directeur général, enfin directeur général associé, et là, je voyais tous les arts. Mais même quand j'étais en littérature, j'allais aussi au concert, etc., parce qu'on discutait de tout ça à l'intérieur du Conseil, comme groupe, comme les fonctionnaires. Mais il y a des institutions. Là, l'Académie des lettres du Québec, j'étais le premier non natif de Montréal à être membre. C'était un honneur pour moi à l'époque. Et tout était comme ça. Et l'accueil... la culture est devenue... c'est pas parce qu'il y a des écrivains migrants. C'est parce qu'il y a des écrivains autres, une diversité, et cette diversité est accueillie, à condition, moi je dis toujours, j'accueille cette diversité, mais Montréal est une ville où on parle français.
Voilà.
Et ceux qui ne parlent pas français doivent l'apprendre, parce qu'ils ne peuvent pas faire partie d'une ville sans parler à la majorité de la population. C'est ça que j'ai dit dès mon arrivée au Congrès juif, et j'ai publié. Et ça, je conserve cette idée, que ce n'est pas simplement par mission, c'est par quelque chose de concret. Oui. Tu ne peux pas vivre dans une ville dont tu ne parles pas la langue.
Quand vous regardez forcément le débat sur les accommodements raisonnables en ce moment, qu'est-ce que ça vous évoque ? D'abord, le fait que ça ait lieu, c'est quand même quelque chose que le Québec a décidé de créer, faire une commission dans laquelle on va quand même donner la parole aux citoyens. Et ensuite, à votre avis, comment est-ce qu'on répond à cette question des accommodements ou des non-accommodements ?
Moi, je crois que l'une des premières choses, je l'ai dit, on m'a invité même à la télévision pour en parler il y a 2-3 semaines, un soir. Alors, la première chose qu'il faut conserver, qu'on a conquis, et ça pour moi c'est essentiel, c'est l'égalité homme-femme, d'abord. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est la liberté d'expression. Ici, on peut dire, même si on est catholique ou juif ou n'importe quoi, on peut dire que je ne le suis plus. Ça regarde. Ça regarde la personne. Bon, on ne peut pas l'exclure. Il y avait un temps où c'était plus difficile.
Oui.
Mais maintenant, on l'a conquis, cette liberté. Il faut la conserver. Et il ne faut pas que d'autres disent nous, on veut pas, on veut garder une autre vision. Ça, même s'ils sont différents, il faut qu'ils acceptent nos libertés. Et ça, c'est essentiel. Et la troisième chose, enfin, c'était aussi toujours, c'est toujours au même niveau, on est laïque, c'est-à-dire. On ne peut pas empêcher quelqu'un parce qu'il est juif, musulman ou chrétien d'avoir un emploi. On tient compte de sa compétence. Et je dois dire que personnellement, j'en ai bénéficié de ça. On ne m'a pas demandé au devoir ma religion pour écrire. Ils la connaissent. Mais et au Conseil des arts non plus.
Mais simplement, c'est tout le fait que la religion appartienne à l'espace intime et privé et ne doit pas déborder sur le...
Oui, mais pour le Québec, il y a un patrimoine culturel qu'il faut quand même étudier, qui est chrétien. Bon, ça fait partie de l'histoire. Il faut, et quand je donnais des cours à l'UQAM, je faisais la comparaison entre la Bible et le Coran.
Sur l'image du Père.
Oui. Et alors, on me posait la question. J'ai dit, vous savez, l'Église a joué un rôle. Pour beaucoup, ça joue encore un rôle. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas dans l'histoire. Bon, on le fait. Et comme moi, je dis, les Juifs en Irak ont joué un rôle et étaient là, il faut que je le dise. Mais ça ne nie pas l'Empire abbasside, ça en rien.
Bien sûr. Je voulais revenir maintenant, parce que c'est quand même aussi notre objet principal. Vous parlez de la langue française, mais vous-même, vous avez, à partir de 72, recommencé à écrire et recommencé à publier, et en français cette fois. Et évidemment, le premier livre qu'on connaît de vous, qui continue, comme vous disiez tout à l'heure, à avoir une vie et plusieurs vies, c'est d'abord un essai, qui était Le réel et le théâtral, et ensuite un roman, Adieu Babylone.
Oui, alors l'essai, c'était... j'ai commencé cet essai pour savoir qu'est-ce qui m'arrive, parce que c'était mon premier... J'ai écrit un article sur qui était Le réel et le théâtral, où je dis, je suis passé d'une langue à une autre langue, d'une culture à une autre culture, d'un pays à un autre pays, d'un espace à un autre espace. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je voulais comprendre. Et j'ai écrit ça, et je ne savais pas où j'allais avec ça. Alors, je l'ai envoyé en France. J'écrivais déjà, j'étais correspondant des lettres nouvelles, j'écrivais dans la quinzaine littéraire. Mais,
enfin, c'est ça, vous aviez gardé vos rapports avec la France, alors, pas parce que vous...
Non, tout le temps, oui, avec Maurice Nadeau et avec tous les autres. Alors, j'ai envoyé à un endroit où on ne me connaît pas, parce qu'on me connaissait comme critique, journaliste, mais pas comme écrivain. Je voulais là m'imposer comme écrivain, un essai. Alors, je l'ai envoyé à la Nouvelle Revue Française, où je ne connaissais personne. Et puis, quelques temps après, j'étais à Paris, j'ai téléphoné à Dominique Horry, qui était secrétaire de rédaction. Elle m'a dit, ah bon, vous êtes là, il y a Jean Grosjean qui voudrait vous voir. Oui, on a reçu votre article, on a discuté. Bon, alors, je vois Jean Grosjean, qui, lui, est un homme exceptionnel pour moi, il a eu une influence considérable. C'était d'abord, il a commencé sa vie comme prêtre catholique, après il a quitté l'Église sans quitter le christianisme, et il s'est marié avec des enfants. Mais comme missionnaire, il avait appris l'arabe et l'hébreu, il était en Syrie, il a traduit la Bible, le Coran, enfin, c'était un homme exceptionnel, un grand poète. Alors, quand il a lu l'essai, il dit... il se sentait très proche de moi. Il dit, vous avez fait le chemin de l'Orient vers l'Occident, moi j'ai fait le chemin de l'Occident vers l'Orient, il faut, on s'est rencontrés. Il dit, on va publier votre article dans la Nouvelle Française, mais c'est un livre que vous avez, il faut écrire le livre. Et j'ai commencé à écrire le livre, j'ai envoyé chapitre après chapitre, il commentait chacun de mes chapitres, et après le livre est parti, est sorti en France, est sorti au Canada. Et il est traduit en arabe, traduit en anglais, enfin bon. Mais c'était, je ne voulais pas faire un concept, une théorie. On m'a, Gérard Bessette, par exemple, il m'a dit, mais Naïm, tu as là une méthode de critique littéraire. Tu veux faire une théorie de critique littéraire à partir de réel et de théâtral. J'ai dit, non, je ne vais pas faire de théorie, je vais écrire d'autres livres. Parce que la théorie vous emprisonne et puis ça filoche après.
L'autre roman, alors ô combien célèbre et qui lui aussi a plusieurs vies, oui. C'est Adieu Babylone. Et comme vous citez souvent une phrase qui est inspirée d'une phrase de Saul Bellow, je pense, qui dit que tant qu'on n'a pas dit d'où on vient et qui on est, on ne peut rien commencer, mais une fois qu'on l'a dit, le monde est à nous.
Oui, alors il faut que je dise, parce que c'est une anecdote intéressante à raconter, je la raconte encore sur Saul Bellow. Un jour, Décari, c'était le maire de la ville de la Chine, parce que j'ai écrit sur Saul Bellow, qui a obtenu le prix Nobel de littérature, il y a quelques années, enfin, il est mort maintenant. Saul Bellow est né à Montréal, et à la Chine, plutôt, à Montréal. Alors, et a vécu à Montréal, et il en parle dans ses livres. Il m'avait beaucoup impressionné. Pour moi, c'est le grand écrivain américain et l'un des grands romanciers contemporains. C'est pas moi seulement qui le dit. Bon. Alors, et Décari me téléphone, me dit, on va fonder une librairie à la mairie. On veut la nommer librairie Saul Bellow. Il dit, c'est pas tous les jours qu'on a à la Chine un prix Nobel de littérature.
C'est sûr.
Alors, il dit, mais on va l'inviter et il va venir. Est-ce que vous voulez venir faire une conférence? Je dis avec plaisir, mais je ne croyais pas que Saul Bellow, qui venait d'avoir le prix Nobel, va venir à la Chine pour l'inauguration de la librairie. Mais non seulement il est venu, il a passé le temps et on a fait, le maire faisait ça en grand, il a fait un barbecue en plein air pour tout le monde. Et après, il avait un déjeuner. Et Saul Bellow a commencé, j'ai fait mon discours, et après Saul Bellow a commencé par dire, il faut toujours commencer par dire où vous êtes né et qui vous êtes, mais ne vous laissez pas vous enfermer là-dedans. Le monde s'ouvre à vous une fois que vous l'avez dit, mais il faut le dire. Il dit, moi je suis le Chinois, il disait, lui, nous les Chinois.
C'était extraordinaire pour vous. Mais vous avez dit, moi, je suis babylonien.
Bagdad, en fait, Babylone, parce que c'était avant Bagdad.
Oui, bien sûr. Mais justement, ce livre-là, quelle pérennité, le fait qu'il renaisse de ses cendres d'une
certaine
façon.
Oui, parce qu'à cause de Bagdad, à cause de ce qui se passe, et aussi parce que dans ce livre-là, je raconte ce qui se passe entre communautés.
Oui.
C'est une ville divisée entre communautés. Des chrétiens, des musulmans, des kurdes, des arméniens, enfin, il y a tout là-dedans. Et je raconte la vie, les tensions, etc.
Mais c'est toujours valable de toute façon.
Les gens, quand il était sorti, il est ressorti en livre de poche à Montréal, il est ressorti en livre de poche à Paris, il est ressorti à Londres. Alors, à Londres, c'était la première fois qu'il est publié. Alors, on m'a invité, on m'a interviewé beaucoup. Et là, il sort une deuxième fois aux États-Unis. Et là, je dois aller de Houston à Madison, de Madison à New York, enfin bon, il fallait parler de ce livre. Mais c'est un livre parce que c'est sur la communauté juive aussi, qui était la plus vieille communauté juive du monde, enfin qui n'est plus, qui n'existe plus, et, mais aussi, c'est aussi sur Bagdad.
Oui, mais justement, je vais revenir à votre parcours littéraire ô combien immense, dont on ne pourra pas absolument parler de tout, évidemment, mais c'est quand même une question intime. Quel effet ça fait de se dire que peut-être on ne retournera plus jamais dans le pays où on est né, justement, à cause de tout ce qui se passe, et comment est-ce qu'on vit ça?
Oui, quand le livre est sorti à Montréal, on m'a invité à la télévision à Montréal, et c'était Wilfrid Lemoine, que je connaissais bien. J'ai dit, Naïm a fait, enfin, il m'a dit à la télévision, vous avez fait beaucoup de choses à la télévision, à la radio, vous êtes connu, pourquoi vous revenir à Bagdad? J'ai dit, je reviens à Bagdad pour dire qui je suis, pour qu'on sache qui je suis. Et maintenant, je peux parler de Montréal, de n'importe quoi, normalement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a écrit, la vie, la mémoire est inscrite. Pour un écrivain, inscrire sa mémoire, c'est quelque chose de très important. Et une fois que c'est inscrit, transmis, on se sent pas libéré, mais on se sent exonéré de reste. Si on revient, peut-être on ne reconnaîtra plus le pays. Enfin, moi, si je revenais à Bagdad...
De toute façon, ce n'est plus le même pays.
C'est plus le même pays, ni la même ville. Moi, je suis parti d'une ville qui avait 750 000 habitants. Maintenant, elle a plus de 3 millions. Et sauf ceux qui s'entretuent, et malheureusement, tous les jours, c'est horrible. Et on ne connaît pas. Et quand je vois les quartiers, quand on dit à la télévision, ça me crève le cœur quand je vois des gens dans les quartiers que j'ai connus qui sont en train d'être tués, etc. Bon, mais c'est quand même, j'ai vécu là.
Oui.
C'était ma ville et c'était des gens avec qui j'ai vécu. J'ai choisi de naître ailleurs aussi. Je ne suis pas en exil. Quand je suis arrivé à Montréal, le premier texte que j'ai écrit, qui était publié d'ailleurs dans la revue Les Écrits du Canada français, dont je suis le directeur maintenant,
oui.
Ça s'appelait L'Arrivée, ce texte. Alors, je dis dans ce texte-là, je voyais quand je suis arrivé, j'étais dans une petite chambre de YMCA, parce que je ne pouvais pas aller. Après, j'étais dans un autre endroit. Et je voyais des gens dans la rue se prendre par la main, se prendre par le bras, étaient ensemble, ils allaient au restaurant. Et moi, j'étais tout seul, je ne connaissais personne, et je n'avais pas de sous. Et puis, bon. Et c'était une grande souffrance à l'époque. Et j'ai dit, cette ville-là, un jour, je l'apprivoiserai. Cette ville-là sera la mienne. Et pour moi, je suis né dans cette ville parce que je l'ai apprivoisée. Elle est devenue mienne. Et ça, quand je suis ailleurs, parfois, quand j'ai chaud quelque part, que j'étais à Dakar ou dans le nord de Brésil, il faisait très chaud, je dis. Une tempête de neige serait une merveille. Ah, une belle tempête de neige.
Eh oui, c'est ça. Mais le pire à Bagdad, c'est aussi qu'on a détruit une civilisation. Et c'est toutes ces choses.
Cette civilisation ne peut pas être détruite. Le peuple est encore là. Ce qu'il y a aussi, c'est que, et j'en vois beaucoup, évidemment, en majorité des musulmans irakiens à l'étranger, des écrivains, des artistes, etc. Il y en a un que j'ai rencontré à Paris qui enseigne l'art en Norvège, un Irakien de Sabéen, en plus, enfin, une petite secte. Et j'ai rencontré d'autres, des romanciers, etc. Ouais. Il y a 5 millions de réfugiés irakiens en Nouvelle-Zélande, même, y compris à Montréal.
Ouais.
Et c'est terrible. C'est terrible. Mais ça ne va pas disparaître.
En même temps, ils transportent tout ça avec eux.
Ils transportent tout ça et ça ne va pas mourir.
Ouais.
Ça va pas mourir.
Alors revenons à votre parcours, parce que vous êtes, bien sûr, à partir... Ça, c'est les deux livres propédeutiques, comme je disais l'autre jour, c'est propédeutique, Adieu Babylone et Le réel et le théâtral. Mais ensuite, il y a les nouvelles qui viennent. Dans votre parcours à vous, selon vous, quand vous regardez votre parcours, quels sont les livres, romans, nouvelles ou essais qui sont des pierres blanches sur votre parcours et qui vous paraissent essentiels à vous? Ah, ils le sont tous, bien sûr, mais
qui
vous ont permis d'avancer, comme par exemple Les fruits arrachés aussi.
Bon, alors j'ai écrit trois romans qui sont des romans autobiographiques. Adieu Babylone, après j'ai écrit Les fruits arrachés qui se passent en Europe, le prolongement de parcours, et après à Montréal, La fiancée promise. Ça, c'est les trois romans où c'était plus ou moins autobiographique, même si c'est des romans. C'était avec beaucoup
Mais
de liberté.
C'est les premiers romans aussi.
Oui, c'était beaucoup de liberté dans l'autobiographie. Beaucoup. Et après, le réel et le théâtral, il y avait beaucoup d'autres livres d'essais, Le désir et le pouvoir, etc. Mais quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, c'était un peu partout dans le monde. Ça pouvait être à Montréal, à Amsterdam, à Paris, etc. Et pour moi, la nouvelle, c'est saisir un instant de vie, un événement capital qui change la vie de quelqu'un, une rencontre, un passage. Et pour moi, c'est un moyen littéraire exemplaire, pour moi. J'ai écrit 10 recueils de nouvelles, ouais. Quand même, mais enfin, bon. Mais le roman, c'est la durée. Et l'essai, c'est la réflexion, à partir aussi d'une durée, d'une narration. Tout est narration. Pour moi, tout est narration. Je ne suis pas poète, je n'ai pas écrit de la poésie, et j'adore la poésie, j'ai beaucoup d'amis poètes, et je leur dis, pour moi, l'écriture n'est pas la langue. La langue est un moyen de dire ce que j'ai à dire, et il faut que ça s'invente par la narration. Si j'imagine un personnage, j'imagine une situation, et ça doit venir, la langue doit suivre. Ce que j'essaie d'éviter, passant de l'arabe au français, l'autre jour j'étais invité pour une réception de l'arrivée de l'ambassadeur, de nouvel ambassadeur de Liban à Montréal dans un restaurant. Et il y avait deux imams, un chiite et un sunnite, qui ont fait des discours de... Mais alors, quelle langue fleurie, quelle richesse de rhétorique, quelle richesse de cette langue-là que je possédais, cette langue. Et je possédais... Alors, que je regarde cette rhétorique et cette richesse de vocabulaire...
De la langue arabe.
De la langue arabe. Et j'ai dit, traduit en français, ça devient lourd, fleuri. Et je suis allé à l'autre extrême, je suis presque minimaliste dans mon écriture pour ne pas tomber dans ça.
Il y a d'autres choses que vous avez dû adapter, sans doute, pour passer de l'arabe au français, comme vous me parliez de l'adaptation du temps.
Oui, alors il y avait d'abord les images, et ça arrive à tout le monde, ça vous est arrivé à vous aussi, de passer, par exemple, dire le soleil, pour moi c'est féminin, je dis, dans ma tête c'est la soleil, la lune c'est le lune, enfin en tout cas, c'est, en arabe c'est bien. Mais ça, il y a plein de choses comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est, je viens de langue sémite, et les deux langues sémites dont je suis sorti, l'arabe et l'hébreu, c'est des langues très très proches, hein, l'arabe et l'hébreu, la moitié des mots c'est les mêmes. Les langues sémites, c'est le présent qui compte dans le temps. Et le passé est par rapport au présent, et l'avenir est par rapport au présent. Et c'est pour ça que j'ai tendance à parler au présent, parce que je viens de langue sémite, de langue sémite.
Et à écrire au présent.
Mais j'écris quand même. J'obéis à la langue française et même parfois je dois faire un effort pour ne pas faire des erreurs dans les verbes. Parce que ça, Jean Grosjean m'a dit, il faudra que vous conserviez. Heureusement pour vous, il faut conserver votre rapport avec le temps parce que ça fait votre spécificité.
Alors, quand on revient, il y a des romans très importants, La fortune du passage, Le gardien de mon frère, ça aussi.
C'est l'un de mes derniers romans. Mais La fortune du passager, c'était une histoire, c'était un roman pour moi important parce que j'ai pris un juif de Bagdad qui parcourt le monde et partout dans chacune des villes, il rencontre d'autres juifs de Bagdad. Et à la fin, il revient de là où il est parti, c'est-à-dire il était en Israël, il repart en Israël, et sa fortune n'est pas l'argent qu'on lui a volé, qui était l'anecdote du roman, mais c'est la fortune, c'est ce qu'il a fait de son parcours. comment il s'est formé par le parcours.
L'amour qu'il rencontre.
Et puis après, l'amour qu'il rencontre.
L'amour qu'il rencontre, l'amour toujours au cœur de vos romans, toujours. Les femmes aussi.
Et l'amitié, il y a aussi beaucoup d'amitié.
Oui, mais c'est des rapports d'amour,
absolument.
De relations intimes, avec cette capacité, cette acuité particulière pour observer justement les relations humaines, les failles dans les relations humaines. C'est quelque chose qui vous vient de toutes vos rencontres. Ou est-ce que vous préférez justement vous... Parce que je trouve que quand on vous lit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est vraiment d'arriver à comprendre tous les mécanismes intimes des relations. Quelles que soient les civilisations, les cultures, les religions, finalement, les mécanismes sont les mêmes.
C'est-à-dire, le point de départ, c'est une curiosité. Et quand quelqu'un me raconte, je dis, n'importe quelle personne que je rencontre dans un train, dans un avion, ou à table, parfois à dîner, a une histoire à raconter. Et cette histoire est unique. Et il n'y a personne qui n'a pas d'histoire à raconter. Et ce que j'ai remarqué, quand j'écoute les histoires des gens, ils ont envie de me raconter leur histoire. Oui. Ils ont envie de
oui,
se dire.
Bien sûr.
Et moi, j'écoute, pas parce que je vais écrire là-dessus après, je vis leur histoire aussi quand ils la racontent. Et ça multiplie ma vie. Alors, la rencontre avec l'autre multiplie ma propre vie. Et ma vie est faite aussi de tas de rencontres et de tas d'histoires, parce que le temps que je les vis, je les incorpore à moi, je les intègre à moi. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, ce sont des histoires réelles. Et quand j'écris des nouvelles, je les sens. Et maintenant, quand j'écris un roman, je vis ce roman.
Oui. Le gardien de mon frère, l'histoire de Raphaël et Gabriel, là aussi, c'est très, très, très allégorique. On ne sait pas qui protège qui dans l'histoire, et qui est le grand frère et le petit. Ça vous ramène à votre propre relation avec votre frère ou...
oh, non, pas vraiment.
Sur la fraternité, mais... en général.
Oui, j'ai beaucoup... un jour, j'ai fait une conférence... je crois que c'était à Buenos Aires, et je parlais de la Bible. Et j'ai dit le rapport de Joseph avec ses frères, non, Joseph avec ses frères, quand il a reconnu ses frères, et il a pleuré quand il a reconnu ses frères, il a repris, il a répondu à la question posée dans le premier chapitre de la Bible. Quand Caïn tue Abel et Dieu lui demande où est ton frère, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et toute la Bible est une réponse, suis-je le gardien de mon frère? Et Joseph dit, oui, je suis le gardien de mes frères. Même s'ils m'ont maltraité, s'ils m'ont vendu, etc., je suis leur gardien. Alors, et pour moi, c'est essentiel. Et ce joue au plan personnel et au plan social.
Bien sûr. Les villes de naissance, un livre que
vous avez publié.
Que j'ai publié, mais que nous allons dire que nous avons en commun, mais enfin, c'est votre livre à vous, avant toute chose. Et c'était vraiment un livre important où justement vous donnez à chacune des villes sa place et son importance, et puis aussi toutes ces relations dans votre famille. Mais comme tous les immigrants, vous dites aussi que vous êtes plus attaché aux villes qu'au pays, finalement. C'est ça aussi.
Oui, je dis, je ne suis pas en exil à Montréal. Montréal, c'est ma ville. Si je suis en exil, c'est-à-dire que je ne suis pas là.
Oui.
Et quand je vais aller ailleurs, je ne vais pas me retrouver. Alors, c'est ma ville et c'est une ville de naissance.
Je regarde les femmes, avant-dernier recueil de nouvelles, aussi sur les femmes, votre capacité à les regarder, à les décrire. Beaucoup de femmes dans vos romans, généralement, elles sont toujours aussi des pierres blanches. Château en Espagne. Alors ça, c'est 4 nouvelles, de grandes, grosses nouvelles ou des petits romans, comme on veut, mais c'est aussi un livre à propos duquel je voudrais dire un autre aspect de votre vie très important, les voyages. Beaucoup
oui.
de voyages dans votre vie, pas seulement pour les traductions, aussi parce que vous avez eu beaucoup de prix et de distinctions, plusieurs fois docteur honoris causa. Je salue d'ailleurs...
Madame Liliana Matisse, qui est de Nova d'Ambusade, de Serbie, qui m'a fait avoir en anglais, qui m'a traduit d'abord en serbe.
La traductrice en serbe, voilà.
Et qui est de passage pour un colloque à Ottawa. Et je suis heureux qu'elle soit là.
Alors, c'était Novi Sad, mais c'est le Vermont, mais c'est l'Université Concordia. Mais vos livres sont traduits partout. Et puis, je dis toujours que j'aurai la chance de vous voir à Montréal quand vous serez de passage entre deux conférences aux quatre coins du monde. Donc, toute cette importance-là du voyage, du déplacement à titre personnel et professionnel, on le trouve aussi dans Château en Espagne, parce que tout se passe en Espagne.
Château en Espagne, c'était... j'ai fait la tournée de conférences en Espagne. Il y avait un professeur, Carmen Mata, qui a écrit sur moi, qui a découvert mes livres, qui a donné un cours sur moi même à Madrid, et qui publie bientôt chez HMH un livre sur le rapport entre le Québec et l'Espagne, où j'écris aussi. M'a fait découvrir un autre aspect de l'Espagne. Et l'Espagne, quand je suis allé à Cordoue, je me suis arrêté devant la statue de Maïmonide sur laquelle j'avais écrit. C'était un juif qui a écrit en arabe et qui était l'un des grands penseurs du Moyen-Âge, pas seulement comme juif, mais comme philosophe. Et j'étais à Cordoue et j'ai vu sa statue. Il est à côté d'une synagogue et j'ai dit... Là, en Espagne, sont retrouvés les Juifs, les Arabes, les musulmans et les chrétiens aussi.
Et ont vécu en harmonie.
En harmonie, parfois avec des tensions, mais ils ont vécu. Ils ont vécu. Et quand je vois comme résultat quelqu'un comme Maïmonide, je dis, c'est la merveille. Et c'est pour ça... L'Espagne est très proche de moi parce que et la première fois que je suis allé voir parce que quand j'étais à Bagdad on apprenait dans notre histoire l'histoire arabe on a civilisé l'Europe en allant en Espagne nous les Arabes on a civilisé l'Europe je voulais voir comment on l'a civilisé j'ai vu qu'il y avait aussi après une décadence. Et que ce n'est pas bien terminé après, mais enfin, ça a duré quand même des siècles. Mais je voulais découvrir ça. Et l'histoire humaine est faite de ça, de civilisations qui durent et qui ne durent pas.
Et qui sont transmises grâce aux livres et aux écrivains.
Oui, alors Maïmonide est toujours là, après des siècles, il est toujours à Cordoue. Et quand je suis arrivé à l'université de Madrid, j'ai eu l'expérience inouïe qu'il y avait celui, le directeur des études arabes, c'était un Irakien qui a échappé à Saddam Hussein parce qu'il était torturé par Saddam Hussein. On oublie ça parfois maintenant. Saddam Hussein torturait les gens et lui, il a échappé. Et il a réussi à apprendre l'espagnol, à faire un doctorat en espagnol. Et là, maintenant, il écrit des livres sur la civilisation et la culture arabe en espagnol. Alors, évidemment, on s'est retrouvés et Carmen Mata était entre nous. On parlait en arabe, en notre langue, et on lui traduisait. Elle, lui traduisait en espagnol parce qu'il ne parle pas français. Et moi, alors, comme je faisais ma conférence en français, après il est venu assister. J'ai dit, mais je fais en français, tu ne comprends pas le français. Il dit, Naïm Katan est à Madrid, il fait une conférence et tu veux que je ne sois pas là? Ça, c'est irakien. Ça, c'est arabe. Mais
c'est
malheureusement, il y a aussi la violence.
Oui, mais c'est fraternel.
Il était fraternel. Il m'a dit, la prochaine fois, tu habites chez moi. Enfin bon, mais... Et c'était pas des mots.
Alors ça, c'est l'histoire de Château en Espagne. Je voudrais aussi citer votre essai qui était paru juste avant, La parole et le lieu. Et je voudrais terminer en disant que maintenant, vos livres sont traduits en arabe. On doit vous traduire en arabe. Quand vous recevez vos livres en arabe aujourd'hui, quel effet ça vous fait ?
On a traduit 3 de mes livres en arabe et ça m'a... Et au début, c'était un choc. Je me relis dans ma langue maternelle, par exemple, Adieu Babylone, où je parle de Bagdad, je me relis en arabe. J'ai dit, il y a des choses que je n'aurais pas dit en arabe et d'autres choses que j'aurais dites, parce que c'était un autre public sur lequel... pour, alors, quand, je dois dire, par exemple, pour parler d'Adieu Babylone, quand il est sorti, Eva Noé Beaulieu a écrit un article là-dessus dans le journal Action catholique de Québec. Il a dit, c'est un livre écrit pour les Québécois. Et c'était vrai, d'ailleurs, c'était fait. Moi, j'écrivais pour la ville où j'étais né, où j'étais. Alors là, quand je le relis en arabe, j'ai dit, bon, mais c'est très bizarre pour moi. C'était écrit pas pour les Arabes. Mais il était quand même, il y avait une authenticité de la, et tous les articles qui ont été écrits là-dessus, il dit, il y a une description de Bagdad qui est très très bonne pour ceux qui le lisent maintenant. Alors, et après la deuxième réaction que j'ai eue, je lis ce livre et je dis, mais cette langue-là était la mienne. Tous ces mots-là, toutes ces phrases très très belles et très bien faites, très bien. Mais c'était à moi, mais je ne peux plus le faire maintenant. Heureusement que j'ai une autre langue.
C'est ça.
Que j'écris dans une autre langue. Mais quand je relis ma langue maternelle, elle m'appartient encore, même si je ne la pratique plus. Mais je la pratique en parlant.
Je conclurai en disant que, en vous souhaitant, parce que vous me l'avez dit récemment, en vous souhaitant d'être aussi publié en hébreu, qui serait une sorte de retour...
On m'a invité récemment à Jérusalem et en principe, c'est en marche, mais enfin bon.
Mais ça serait quelque chose qui c'est une perspective pour vous.
On a traduit des textes de moi, mais pas tout, des livres, mais enfin bon.
Il n'y a pas de retour autre que littéraire, de toute façon.
Et pour moi, l'essentiel, et je dois dire aussi, c'est que mes livres paraissent en français. C'est toujours l'essentiel.
Voilà.
Et ma langue, et quand... Et la langue qui me fait le plus vibrer, malgré toutes les autres langues,
oui.
C'est quand même le français. Quand j'écoute, je me souviens, je suis allé écouter Racine pour la énième fois. On était à Paris. C'était pour moi, c'était la musique. C'est la littérature. Et quand c'est bien écrit, quand le français peut être... Non, quand je lis Shakespeare en anglais, c'est superbe, c'est sublime, mais c'est pas moi.
C'est pas la même musique.
Oui, et là, je me sens un peu le descendant de tous ceux qui ont des grands qui ont écrit.
En tout cas, c'est votre descendance à vous, c'est celle que vous avez décidé d'avoir.
J'essaie.
C'est le mot de la fin et de la conclusion.
Merci.
Je vous remercie beaucoup. Et je cède la parole à notre public en vous disant que vous avez ces deux micros à votre disposition pour poser quelques questions.
Est-ce que je peux aller
à Naïm Katan, bien sûr.
Et je reviens.
Pendant ce temps-là, vous réfléchissez à vos questions. Également rencontrer Naïm Katan plus... j'ai plus de micro. Il est revenu. Vous pourrez également rencontrer Naïm Katan en venant le voir après les questions ou faire signer vos livres si vous en avez. Alors, je voudrais tout de suite vous dire, pour profiter du privilège qu'on a d'être ensemble, face à face, que nous avons décidé de la personne qui sera là le 8 novembre. Madame Christine Bouchard vous disait tout à l'heure que Marie-Cécile Abrèche ne pourra pas être là. Et en fait, ce sera Monsieur Archambault, Gilles Archambault. Donc, c'est un nouveau rendez-vous. Et le mois de décembre, c'est Neil Bisundat. Alors, restez fidèles et vous pouvez aussi aller sur le site de banque, donc banque Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour réécouter les entrevues, non seulement celles que nous avons faites aujourd'hui, mais celles qui ont lieu ici depuis le mois de septembre dernier. 2006, je veux dire.
Merci.
Je vous en prie, alors. Oui, bien sûr, madame.
Je voulais remercier M. Naïm pour sa conférence. Et j'ai deux petites questions. Le premier, vous avez fait allusion quand vous a demandé de changer de nom. J'aimerais savoir si ce n'est pas trop demandé ou indiscret. Qui et pourquoi on vous a demandé de changer de nom? Je pense que vous l'avez dit un peu au début, là, quand madame vous a dit de vous présenter. Vous avez dit votre nom et vous avez dit qu'on m'a demandé de le changer, comme j'ai cru comprendre.
Ah oui, c'est une anecdote amusante. Quand je suis arrivé à Montréal, mon nom était étrange, Naïm Katan. Alors, je commençais à sortir avec des jeunes filles qui, quand elles m'emmenaient chez elles ou avec des amis, elles disent... dans leur famille, Naïm, c'est très étrange, tu ne peux pas changer en Normand ou Nelson, quelque chose de moins compliqué. Je me regarde dans le miroir et je dis non. Mais chaque fois, maintenant, après coup, je paye le prix, chaque fois que je dis mon nom, elle dit d'où est-ce que vous venez, ça fait combien de temps que vous êtes là, est-ce que vous aimez Montréal? Maintenant, je dis, est-ce que je dis, alors là, ma réponse, je suis là avant votre naissance, et c'est presque toujours vrai, j'aime autant Montréal que vous. Vous l'aimez, si vous l'aimez ou ne l'aimez pas, avec n'importe quelle ville, on l'aime et on ne l'aime pas. Enfin, on vit dans une ville.
Oui, après tant d'années d'expérience, on se fait toujours demander d'où on vient. Ça aussi, c'est on met un point d'interrogation.
Oui, mais moi, chaque fois qu'on me demande, il faut que je raconte ma vie.
Oui. Bon. Ma deuxième question, vous avez dit une phrase superbe, que la rencontre avec l'autre multiplie ma propre vie. La rencontre avec l'autre multiplie ma propre vie. Oui. Dans quelles conditions et là, pour travailler avec la commission Bouchard-Taylor, vous pensez que ça va être vrai actuellement à Québec et à Montréal? Et merci.
Je dois dire que je connais les deux. Charles Taylor est un ami de 40 ans. J'ai même été à des réveillons chez lui. Enfin bon, alors on a beaucoup discuté, je le connais. Et j'ai beaucoup de respect pour sa pensée. Et Bouchard est membre de la Société Royale, était président de l'Académie quand il a été reçu. Je le connais très bien, on a travaillé ensemble. Mais, donc, ceci dit, en dehors des deux personnes, la commission, il y a quelque chose qui se passait au Québec. Il y a eu une révolution tranquille, c'est-à-dire il y a eu... moi, quand je suis arrivé, tout était catholique. Maintenant, quand je donnais des cours à l'UQAM sur en comparaison entre la Bible et le Coran, et il y avait beaucoup de personnes qui étaient catholiques, enfin la majorité, et qui n'ont pas eu d'éducation. Enfin, ils n'étaient pas, leurs parents voulaient en sortir. Alors, il y a un manque de rapport avec le passé. Alors, quand il y a d'autres personnes qui viennent et qui disent « nous, nous sommes ci, nous sommes ça, nous... » Et même si c'est des petites minorités, on parle des hassidiques juifs, c'est une petite minorité qui... On pense que tous les juifs sont comme ça, non. Et on voit les musulmans qui sont... La majorité des musulmans, s'ils ont la liberté, seraient très, très, très libres et très ouverts. Mais malheureusement, il y a de la politique qui rentre là-dedans, souvent. Et alors là, quand ces gens-là disent « nous, nous sommes ci, nous sommes ça », et les Québécois commencent à se poser la question « qui sommes-nous ? Qu'est-ce que nous sommes ?» Bon, la langue, oui, la langue, mais la langue appartient à tous ceux qui la parlent, qui l'obtiennent, qui la gagnent. Ça ne suffit pas pour identifier un peuple. Il y a une histoire. Il y a un passé, il y a une société, l'égalité. Mais tout ça, c'est dans la modernité actuelle, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté de l'esprit, la liberté de parole. Alors c'est pour ça que il y a peut-être une réaffirmation de ces valeurs que les Québécois, dans leur majorité, y compris les immigrants, vont faire ensemble. Et je crois que ça, c'est ça qui serait souhaitable. Pas de conflit, pas d'interdit et de bataille, mais simplement une affirmation commune.
Mais c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui on est tout seul.
Tout seul.
On sait forcément, on peut éventuellement savoir qui on est exclusivement dans la confrontation avec l'autre, et dans le regard de l'autre aussi. Ouais. Alors, c'est effectivement...
Oui, c'est ça qui est... C'est un problème... Et là, on le voit un peu partout. Je l'ai vu en Espagne, quand je suis allé en Espagne, les gens me disaient, nous sommes catalans, nous sommes galiciens, nous sommes... tout le monde était quelque chose, il n'était pas... Alors, la seule ville où était...
Que les... Espagnol.
Non, c'était Madrid.
Oui, Madrid.
Oui, alors, et moi, j'ai fini par aimer Madrid, parce que c'est une ville qui comprend... les autres, ce n'était pas galicien, ce n'était pas catalan. Mais j'adore aussi Barcelone et Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin bon, mais tout mais et là, on le voit en Belgique. Alors là, n'en parlons pas. Et, enfin, il y a toujours des gens qui cherchent dans la réaffirmation à échapper à l'anonymat que la technologie actuelle crée. Je l'ai beaucoup senti, j'ai beaucoup écrit. Il y a un anonymat. Si vous regardez beaucoup d'émissions de télévision, par exemple, quand mon fils regardait des émissions d'enfants, c'était très très joli. À l'époque, je me souviens, il y avait des lions ou il y avait des animaux comme ça. Et ça venait du Japon. On ne savait pas que ça venait du Japon. C'était anonyme. Et plus l'audience augmente, plus on veut l'anonymat pour que personne ne se sente exclu. Ça crée une contrepartie. Les gens disent, mais je ne suis pas anonyme, je suis quelque chose. Et là, il y a un retour. Ce retour-là peut être libérateur à condition qu'il ne soit pas en régression. Parfois, ces retours-là sont des régressions partout dans le monde. Ici, heureusement, on en est uniquement au débat, à l'ouverture, à la discussion, et c'est merveilleux que ça demeure comme ça. Plus il y a débat, plus il y a parole, moins il y a de violence. Plus on discute, dès que le débat s'arrête, il y a violence. Et heureusement qu'il y a cette commission, je ne sais pas ce que ça va donner.
Madame.
Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ça tombe très bien que je retrouve un de mes écrivains favoris. En présentant Naïm Katan, Madame Apostolska a bien dressé son passage. Je veux bien le passeur. 3 continents, au moins 3 langues, 3 religions. Mais on a mentionné que l'amour est l'amitié. Je dirais que quelque chose nous manque. L'interculturel et la famille, puisque vous disiez il y a 3 romans autobiographiques. Moi, je dirais qu'il y en a plus. Il y a d'abord la place de Farida, la première jeune rebelle encore à Bagdad. Et puis, il y a ce recueil fantastique de plus de 30 nouvelles, « Je regarde les femmes ». Et donc là, il y a Greta de Stockholm, il y a des Françaises, des Hollandaises, des Allemandes. Pourrions-nous voir comment vous voyez l'influence des femmes et de la famille sur, disons, les rapports entre des nations, des religions, encore une fois, plus qu'une amitié?
Oui. D'abord, je dois dire que Liliana a traduit Farida en serbe et on a eu beaucoup de discussions là-dessus quand elle faisait la traduction. Et après, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. Et je dois dire aussi que je dois parler de Farida, puisqu'elle me le permet. C'est le roman...
Je n'ai pas pu parler de tout.
Mais j'ai écrit 40 livres, alors ça va. Alors, Farida, c'est l'histoire d'une jeune chanteuse juive de Bagdad qui a essayé d'être libre en amour, en art, et comme femme et comme juive. C'était très difficile, très compliqué. Elle a payé un prix parfois qui peut paraître exorbitant, mais après elle est devenue la chanteuse la plus connue de Bagdad, etc., de l'Irak, et elle s'est posé la question si ça suffisait, cette célébrité. En tout cas, c'est un roman qui a eu beaucoup de d'effets.
Oui.
Elle est traduite aussi en arabe. Alors, ceci dit, maintenant, revenons à ce que me demande Liliana. C'est, pour moi, il n'y a pas d'homme qui existe sans qu'il y ait des femmes. Je veux dire, comment on peut exister sans femmes, sans qu'il y ait la présence des femmes dans le monde? Pour moi, un monde où il n'y a pas de femmes est un monde absent, est un monde qui n'existe pas. Et je dois dire que quand j'ai découvert à la fin de mon adolescence que les femmes sont présentes dans la vie, comme amitié, comme amour, etc., c'était la fin d'un sentiment non dit de mutilation. Quand un homme qui ne peut pas parler à une femme, qui ne peut pas aimer une femme, qui ne peut pas avoir une amitié avec une femme, est mutilé. Et la chose la plus importante de dire quand il y a cette séparation entre hommes et femmes, c'est une mutilation de l'homme. Et quand je vois que dans une partie importante du monde maintenant, les femmes sont maltraitées, sont persécutées, sont...
voilées. Voilées,
c'est pas le pire, aussi. Mais c'est quand on leur lance
de l'acide dans la figure.
De l'acide dans la figure... C'est quelque chose qui fait mal. Qui fait mal, pas parce que... c'est fait mal à l'homme, à mon avis, autant qu'à la femme. Sans doute, à la femme, c'est d'une manière différente. Mais à l'homme, ça fait mal. Parce qu'une femme, ça fait partie de nous. C'est la vie sans ça... je n'ai pas eu de fille et quand mon fils a épousé sa femme, qui est un miracle incroyable, il était né à Bagdad, enfin pas à Bagdad, il est né à Paris, mais d'origine irakienne, je l'ai rencontré, je l'ai vu, je lui ai dit, t'es la fille que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. T'es ma fille.
Et maintenant, vous avez une petite fille.
Oui, oui, oui. Alors, ce qui est une merveille. Mais enfin, je veux dire, on ne peut même pas parler d'hommes et de femmes. C'est la vie, c'est le monde. Oui.
Bonjour, premièrement, félicitations pour l'entretien, c'était très très intéressant. Monsieur Catane, je voudrais d'abord faire un petit commentaire et ensuite vous poser une ou deux questions. Et aujourd'hui, on vit dans une société qu'on appelle interculturelle ou multiculturelle, ça dépend où on se trouve géographiquement. Et parmi cet ensemble de communautés, il y a un groupe de créateurs, un groupe d'artistes, y compris les écrivains. Alors, je me pose la question, quelle est la signification, je ne veux pas dire les rôles, la responsabilité grande d'un écrivain ou d'un artiste dans une société, mais quand même, je pense qu'un créateur ou un artiste a un rôle important à jouer, surtout aujourd'hui, surtout après le 11 septembre, où il y a une certaine rupture non, entre certaines cultures. Et il y a un autre danger aussi d'une sorte d'hégémonisation de la culture à travers la planète. Non, surtout qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes qui concernent tout le monde, toute la société et chaque individu aussi. Alors la question est très simple. D'après vous, quelle serait la signification? Parce que vous venez de dire, de la même façon qu'un monde sans femme, ça serait une erreur. Je dirais qu'un monde, une société sans artistes, ça serait une erreur aussi.
Oui, alors c'est une question que j'ai vécue longuement parce que je commence par dire, dans mes fonctions au Conseil des Arts, on subventionnait des artistes de toutes formes. Et il y a des gens, parfois au Parlement, qui posaient la question « Pourquoi doit-on subventionner ?» Et on ne donnait pas autant d'importance à l'art, à la culture, que nous, enfin au Conseil des Arts, que moi-même, je donnais. Et je disais, une société qui ne respire pas va mourir. Pourquoi il y a des parcs, je disais, pourquoi il y a des parcs dans des villes? C'est pour qu'on puisse respirer aussi. Et la culture est aussi importante pour respirer, pour moi. Alors, on ne pose pas la question... ce que ça coûte un parc, il ne faut pas poser la question de ce que ça coûte une culture. Ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus. Alors, et face à cet anonymat qui fait que tomber la culture dans l'industrie, on dit que c'est une industrie qui rapporte de l'argent, et on voit que beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains qui peuvent être des best-sellers, mais qui ne le sont pas, sont aussi importants à longue échéance que les autres. Ce n'est pas seulement les célébrités.
Sinon maintenant, plus, c'est
oui,
pas un
sinon
critère,
plus.
C'est...
Maintenant, on chante la célébrité parce qu'on met l'accent sur l'anonymat. Que la célébrité, quand on fait de l'artiste un personnage, on ne le voit pas comme artiste, on ne voit pas le fond. On ne voit pas le contenu.
Mais il est une image.
Oui, on le réduit. Bon. Et ça, je crois que même chez nous, ici, on voit qu'il y a de moins en moins d'articles dans les journaux sur les arts. Radio-Canada ne fait pas son travail pour la littérature et les arts. Et tout est à l'avenant. Et ce n'est pas seulement ici, quand on voit ailleurs, que ce soit en France, en Allemagne, en Hollande, en Italie, on voit qu'on va vers les célébrités qui est l'autre côté de l'anonymat. Pour sortir de l'anonymat, on est célèbre, mais la véritable vie, ce n'est pas la célébrité ni l'anonymat, c'est l'expression culturelle. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est essentiel dans notre vie. Et il faut au contraire mettre plus d'accent là-dessus que jamais.
Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à méditer à partir de tout ce que nous a dit Naïm Katan. Merci beaucoup pour votre générosité. Je vous invite à le retrouver là où il se trouve, dans ses livres. Et il y a de quoi faire avec lui. Merci beaucoup et à bientôt à tout le monde. Merci.